La bande originale avec Léla Kadobou-Dendy, Daniel Morin, Albert Algou, Alexis Rossignol, Tanguy Pastureau sera tout à l'heure et notre invité est Anne Brochet.
Bonjour Anne. Comment allez-vous? C'est la première.
Ça va pas
vous,
mal.
Vous en sortez avec vos
pulls. Mes peluches.
Avec vos pulls.
Ça va.
Vous êtes en ce moment au Théâtre des Bouffes du Nord, mais vous signez également La Fille et le Rouge chez Grasset, aux éditions Grasset. Ce roman avec une plume et une manière d'écrire extrêmement particulière, parce que ce sont des phrases rapides, souvent courtes d'ailleurs, mais extrêmement précises, dans lesquelles on ressent l'émotion d'une femme. On est dans la peau, dans la tête, dans le corps d'une femme. D'ailleurs, j'ai le sentiment de maintenant comprendre ce que c'est qu'une femme qui tombe amoureuse.
Enfin
Enfin, parce que ça commence par elle tombe amoureuse, elle se fait envoûté, j'ai envie de dire, par un homme qui vit de l'autre côté de l'océan. Mais toute la scène, la première scène de cette espèce de, je sais pas, de chaleur qui l'envahit, d'odeur aussi, parce que les parfums sont très présents dans votre roman. C'est vraiment l'angle de cette fille que vous avez pris et de cette histoire d'amour qui est une. Bah si, c'est une histoire d'amour.
Ah oui, c'est une histoire d'amour. Non, mais je dis pas ça, mais c'est une histoire d'amour qui est tellement. Moi, qui m'a fatiguée dans le. Vraiment, c'est épuisant.
Mais tu manques de patience, toi.
C'est épuisant.
Oui, c'est éprouvant.
Ah oui.
C'est une histoire d'amour. Oui, c'est... Si tu avais vécu cette histoire d'amour, tu aurais. Enfin, toi, tu serais pas.
Je suis pas le dixième, moi. Mais c'est un amour inconditionnel qui est.
C'est pour ça que j'ai dit envoûté.
D'emprise terrible, en fait, que cet homme exerce sur elle ou que l'amour a déclenché en elle.
Je dirais plutôt l'amour, parce que je pense que lui est tout aussi épris qu'elle ne l'est.
Il y a la réciproque. Chez lui, bien sûr.
Ouais, sauf qu'il est sous
pas du même genre.
Il fait plus subir des choses, j'ai la sensation. Elle subit plus.
Il pense plus à sa pomme, quoi. Et lui, il va faire des soirées avec ses potes, il revient bourré, il s'en fout. Il est pas très généreux, quand même, en amour, lui.
Oui, mais c'est pas le même don, on va dire. Elle n'a que lui. Lui, il a d'autres choses parce qu'il est dans son monde. Il est combattant du feu.
Pardon.
Non, mais je vous reprends pas, Nagui. C'est juste que, en fait, c'est un mot pompier que j'utilise absolument pas, parce que combattant du feu, ça, pour moi, ça a beaucoup plus de sens.
Parce qu'il y avait un côté héroïque dans ce combat.
Il y a combat et feu.
Et puis il y a le péril de sa vie, où il peut, en effet, pour aller sauver une personne, risquer sa vie ou se retrouver écrasé par une poutre en feu. C'est évoqué.
Sauver ou périr.
Parce que voilà, c'est ça. Est-ce que vous ne dites jamais, d'ailleurs, ils n'ont pas de prénom. C'est
il est elle.
C'est la femme. Alors que je ne m'appelle pas elle.
Elle lui reproche ça, les enfants la désignent.
Elle dit oh, bien vu.
Je ne m'appelle pas elle.
Ah, ouais, c'est drôle.
Et pourtant, vous l'appelez elle.
Ah oui,
genre, dites-moi que vous avez remarqué ça maintenant.
C'est vrai.
Je m'en suis pas du tout rendu compte, non.
Vous la privez d'identité quelque part, de prénom.
Lisez-le, Annie.
C'est le problème quand on n'écrit pas les livres. C'est le souci.
C'est la scène de la luge.
Oui, mais c'est une belle remarque, ça me plaît beaucoup.
C'est gentil, donc on va préciser d'où vient cette remarque. C'est que tout le long du roman, en effet, vous l'appelez elle, la femme, la jeune fille, la fille. Et lui, c'est l'homme.
Après, l'homme et l'ogre.
Après, oui. C'est ça. Après, il y a l'homme à la barbe fine, après il y a l'homme à la barbe rousse qui arrive. Tout est toujours décrit comme ça, on n'a pas les prénoms. Et il y a en effet une scène où lui est divorcé et il a la garde de ses enfants. Ils partent faire de la luge. Que de luge pour quatre personnes. Elle se demande à quel point elle va pouvoir participer au jeu. Et par un élan de générosité, il veut la faire participer à la luge. Donc il dit, il dit à l'un de ses enfants, fais la luge ou glisse avec elle. Et là, le elle devient
ça rend dingue.
L'insulte suprême. C'est ça, j'essaie d'aller un tout petit peu vite. En besogne, vous avez voulu raconter quel genre d'histoire d'amour? Parce que nous, on se dit, et donc envoûté,
Moi, j'avais envie de raconter une sorte d'étude de sciences naturelles de la relation charnelle et amoureuse emprise, je sais pas comme ça que je l'imagine, mais en tout cas comment deux êtres s'attirent et effectivement plus du côté féminin, une étude de des schémas, c'est-à-dire il y a le elle, il y a le lui, il y a la terre, il y a la mer, il y a la maison, il y a la rue, il y a l'océan, il y a une colline. Tout ça est très schématique. C'est une étude de science nat.
D'ailleurs, vous ne donnez pas de nom au personnage, vous ne donnez pas de nom au pays non plus. On a le sentiment d'être en Amérique du Nord. On essaie de deviner si on est au Canada ou aux États-Unis. Je pencherais plus pour les
États-Unis. Ouais, il y a des portoricains dans le voisinage.
Le taxi, il y a une vitre dans le taxi avec le permis de conduire haïtien.
Félicien haïtien.
Enfin, elle est plutôt blanche, elle ne veut pas porter le poids de la colonisation. Enfin, on essaie comme ça de déduire des trucs.
C'est quoi? C'est pour que chacun puisse s'identifier sans être, c'est ça?
Oui, j'aime bien écrire pour donner. Comme ça, d'abord, moi, je me débarrasse.
Ça me fait du bien.
Ouais. Ça me fait du vide dans mon grenier. Et parce que j'ai toujours l'impression que voilà, on est des mâles qu'on ouvre et on va fouiller dans nos mâles. Moi, c'est ce que je fais quand j'écris. Je vais fouiller dans ma malle, dans mon grenier. Je fouille, je vais prendre ce truc. Ah, j'avais oublié que j'avais ça. Ah, oh là, il est bien ce déguisement. Mais je m'amuse beaucoup.
Mais ça veut dire qu'en commençant votre roman, vous ne savez pas comment vous allez finir par donner ?
Si, je sais ma fin.
D'accord.
Mais le chemin se dessine.
Celui-là, il a eu beaucoup de chemin. Il a eu des noms, il a eu des lieux. Ah. Après, les noms sont partis, les lieux aussi. J'ai gommé beaucoup. Il y a des gens qui sont sortis du roman.
Et si je vous dis Sophie Calle, j'ai lu dans une interview qu'il y avait une référence à la vie de l'artiste Sophie Calle.
Pourquoi j'en ai parlé ? J'en ai parlé à cause d'un livre, d'une œuvre qu'elle avait faite et qui m'avait beaucoup frappée. C'était Les Suites Vénitiennes.
Oui, où en fait elle...
La filature, et elle, la fille et le rouge, la fille, elle suit cet homme, elle n'est obsédée que par cet homme pour se débarrasser de sa propre existence.
On va continuer de parler de La fille et le rouge, le nouveau roman d'Anne Brochet, mais d'abord des questions concernant Anne Brochet, on va voir si vous avez bossé les camarades. À quelle disparition a été confrontée Anne Brochet dans son enfance ? Ne dites rien, Anne, c'est eux qui doivent trouver.
C'est un truc célèbre. C'est un truc pas triste, sinon. Un animal domestique ?
Non, alors c'est
son vélo.
C'est un objet, c'est matériel.
Son doudou ?
C'est matériel, mais ça l'a rendu un peu triste.
Sa maison.
Exactement, la maison.
Ah, la maison.
Ah, la maison.
La vente de la maison familiale vous a rendu triste dans votre enfance.
C'est un trauma.
Vous étiez attaché à cette maison.
Oui, il y a eu un avant, un après. C'était le moulin de mes grands-parents. Qui a été mon monde, c'est là où j'ai développé mon imaginaire, je pense, de façon très forte.
Et ça a changé quoi ? Vous dites qu'il y a eu un avant, un après, vous êtes...
Après, je suis devenue adolescente.
Ah, ça vous a donné un coup de maturité, en fait, de quitter cette maison ?
Non, c'est une maison qui a été vendue quand j'avais 12 ou 13 ans, et après, effectivement, je suis rentrée... avant, j'étais dans l'enfance,
et là,
puis après, j'étais dans l'adolescence.
À ses débuts, quel métier Anne imaginait-elle faire à la place de comédienne ?
Médecin.
Alors, on pourrait même dire métier au pluriel. Alors, médecin n'en fait pas partie, non.
Ah, il y en a plusieurs.
Oui, il y en a plusieurs, oui.
Cuisinière, magicienne, vétérinaire.
Non.
Est-ce qu'il y a plusieurs métiers liés à peu près la même chose ?
Mais tout ce que vous avez dit, il n'y a rien. Non,
chanteuse,
non.
Fleuriste.
Mais ça, on peut faire ça quand on est actrice, hein. Tout ça, tous ces métiers-là.
C'est vrai. Institutrice.
Non.
Acrobate, jongleuse, circassienne.
Trapéziste.
Non.
Je peux aider ?
Non.
Magicienne.
Sportive ?
Non.
Est-ce que ça a à voir avec les arts ?
Pompier ?
Il n'y a pas pompier.
Combattant du feu.
Aviatrice.
Il n'y a pas combattant du feu, mais il y a des...
Policier, gendarme.
Policier, oui. Inspecteur de police, oui. Alors, après, il en reste deux.
Militaire ?
Alors, elle est plutôt dans l'action, quoi.
Non, justement. Non, plus du tout.
Psychologue.
Alors...
Garde forestier.
Psychanalyste.
Infirmière.
Pas loin. Non, philosophie. Donc,
philosophe.
Ah bon ?
Oui, étudiante en philosophie, vous voulez pas ? Oui.
Vous vouliez un métier. Hein.
Vous vouliez. Allez, un dernier.
C'est
qui...
lié à la nature.
C'est, on va dire, que par exemple, Florence Pernel l'a fait ce métier.
Antiquaire.
Exactement. Antiquaire. Ce sont les métiers que vous étiez.
Antiquaire, oui, je me suis dit ça sur un film. Parce que je voulais tellement changer de métier, je dis, oh, je vais faire antiquaire.
C'est-à-dire qu'en étant comédienne, vous en aviez marre d'être comédienne.
Oui, j'avais hâte de me coucher le soir pour réfléchir à un autre métier.
Mais par quoi ? Par peur du lendemain ou par ras-le-bol du métier ?
Oh, c'était Oui, je me disais que peut-être que c'était pas vraiment le bon choix. Mais bon, je suis là. Je suis au théâtre tous les soirs et je suis très heureuse.
Ah bon, ce que j'allais vous demander, ça va?
Oui, oui, oui. Non, c'était, je sais pas, je crois que j'avais 24 ans et oui, je me suis dit que j'allais être antiquaire.
Donc c'était avant Cyrano?
Non, après.
Ah, c'était après Cyrano?
Ah bon?
Bah, après avoir connu le succès de Cyrano, vous posiez des questions de légitimité.
Oui, ça, oui, oui, bien sûr.
Encore aujourd'hui?
Non, ça y est, ça s'est passé. Ah, mais okay. ça peut durer longtemps. Hein.
Quelle question Non, je vais passer à autre chose. Tiens, comment réagit Anne quand on lui dit quelque chose de désagréable?
Elle sourit, elle envoie un compliment.
Elle se repart.
Elle se tait, elle oublie, elle essaie d'évacuer. Hop, elle jette loin.
Elle efface le contact dans les messages.
C'est une réaction physique?
Non.
Elle pardonne pas, elle pardonne.
Elle insulte?
Non.
Elle pose la main sur l'épaule.
Quelque chose de désagréable? Elle fait mine de ne pas avoir entendu.
Elle fume un joint.
Alors sur le
elle y trouve un compliment où elle se dit que la personne qui dit ça est triste pour lui faire une chose.
Je veux dire, c'est en deux temps. C'est en deux temps. C'est au moment où on lui dit quelque chose d'agréable et après.
Elle pleure et après elle se mouche.
Elle serait capable d'être brutale et ensuite
non.
Elle se dit bouf.
Non.
Ou sur le moment, elle accepte, elle sourit et puis après elle se
chante.
Dit donc, il est gonflé de m'avoir dit ça.
Alors c'est pas loin.
Ouais.
C'est pas loin, mais sur le moment, elle ne sourit pas.
Elle est polie.
Non.
Mais il a peut-être raison.
Elle se cache les yeux.
Elle se voile la face.
Ouais, allez. On va dire que sur le moment où vous êtes pétrifié, c'est le terme que vous aviez employé dans une interview au JDD.
JDD.
Ouais, JDD.
JDD. Mais quand?
Ben, en 2015.
Mais c'était il y a très longtemps.
Non, c'est pas si longtemps.
Alors, je fais quoi?
Vous êtes pétrifié et vous réagissez à contre-temps. Et vous regrettez presque de ne pas avoir réagi sur le moment. Et vous vous dites plus quelques jours ou heures après, j'aurais dû...
Non.
Ok, très bien.
Ça, c'est des choses d'adolescence et de jeunes personnes, pas 2015. J'ai dû parler de comment j'étais quand j'étais beaucoup plus jeune. C'est ce que...
Vous dites, il me faut au moins 3 jours pour sortir de ma réserve. C'est quand même...
Non, mais vous... Non.
Non, on oublie.
Non,
on
mais j'ai dû improviser quelque chose sur moi-même à ce moment-là.
De quel artiste n'aura-t-elle aucun concert?
Julien Clerc.
Non.
Je vous ai dit,
elle a fait un duo à Taratata avec lui.
Ah, oui.
Louis Chédid.
Là, vous perdez des points même dans à mes yeux. Parce
Michel
que
Jonas.
Je me dis que vous n'avez...
Mais si, arrête.
Je me dis que depuis...
Vincent Delerme.
Je dis que vous avez raté un Taratata depuis 26 ans.
Ah oui.
Vincent Delerme.
Non.
Il va rater le prochain, en tout cas.
Souchon.
Si j'ai bonne mémoire, c'était pour une reprise de Mon Manège à moi. C'est ça, Anne? Ouais.
Johnny.
Ah, je l'ai lu. Oh.
Mais vous êtes vraiment pas bon.
Merci, Anne.
Un homme ou une femme?
On dirait pas. Hein.
Un homme. Ouais, bon, trop classe.
Dao.
Oui, exactement.
Ah. Pour lire le JDD 2015, vous êtes fort.
Fan d'Étienne Dao.
Ça commence bien.
Et donc là, vous êtes encore allé le voir en concert? Vous...
Ben non, je tourne.
Ah.
Je tourne, je suis en tournée.
D'accord.
Bah, je tourne.
Bah oui.
Ok. C'est plus qu'une admiration, c'est une amitié profonde avec Étienne.
Oh oui. Nous sommes liés depuis si longtemps, depuis l'univers.
Est-ce qu'il fait partie de vos premiers lecteurs? Est-ce que vous avez un cercle d'amis à qui vous faites lire vos romans avant de les publier, peut-être?
Pas du tout. Je fais lire à aucun ami.
Uniquement à Grasset?
Oui.
Donc vous n'êtes pas amie avec...
Ou au Seuil, quand j'étais au Seuil. D'accord. Mais jamais fait lire à personne, non. J'y arrive pas, non.
Mais c'est non. Par pudeur ou par peur de...
J'ai pas peur de rien, j'ai pas envie de m'en mêler les pattes avec des opinions amicales que je respecte, mais c'est pas le... J'admire les artistes, les auteurs, il y a toujours un remerciement, il y a genre 30 noms de gens qui ont aidé l'auteur à
pouvoir recevoir le livre.
Ouais, et moi rien.
Ingrate.
Ouais, je me mets... Non, ça me...
Vous voulez pas.
Ça.
D'accord. Quelle obligation, et ça sera la dernière question. Non, faites ce que vous voulez. Quelle obligation du métier déteste-t-elle?
La promo?
Du métier de comédienne.
Se lever tôt.
Pas d'auteur.
Se lever tôt.
Non.
Oui.
Non.
Oui.
Faire la promo.
Les répétitions.
Le maquillage.
Alors c'est avant les répétitions, avant le maquillage.
Le casting.
Les filages.
Oh, je sais.
Tu dis quoi, le casting?
Les répètes.
Ouais.
Alors,
c'est le choix des partenaires.
C'est une étape du casting.
Ah bon?
C'est après le casting, alors.
C'est les premières lectures, les réunions, le groupe, quoi, la vie.
Pour un film,
le maquillage.
La négociation.
L'habillage.
D'ailleurs, j'ai dit que c'est après les castings. Je crois que c'est avant le casting qu'on fait ça.
Ouais, la lecture des contrats.
Non, c'est avant le casting.
Avant le casting.
Avant le casting, ouais.
La rencontre avec le réal,
oui,
le fait
mais se passe,
bah, le café qu'on va boire
la
ensemble
séduction.
Pour parler
non,
du texte, la lecture du scénar.
Oui, mais alors, quand tu
répéter dans le vide.
Oui, alors donc ça
se projeter en disant ça peut être pour
ça
moi.
Ça a un nom quand tu
faire l'italien.
Quand tu montres de quoi tu es capable.
Se vendre.
Un essai. Ah juste je l'ai dit. Okay,
c'est ouais. Des mots. Ouais, un essai.
Ah, ouais. Ouais, oh, ça va, je l'ai dit.
Mais c'est quoi
les essais.
Les essais.
C'est laborieux.
Ah bon.
Oui. Vous n'aimez pas les essais?
J'ai bon.
Ça c'était dans l'Express. Hein.
Oui, mais c'était Express 2000.
Oh bah non, mais ça va. Ok, d'accord.
On n'est pas en 2040 là.
Vous dites cette tension, ah ouais cette tension pas encore. Cette tension me bloque. Il faut gagner. Vous n'aimez pas cette situation de passer des essais?
Alors là, tension me bloque. Cette tension me bloque.
Oublions, si c'est pas le cas. Vous savez, moi, je j'aime pas insister sur les choses agréables.
Il est souple, hein.
Je sais pas quoi dire. J'ai pas d'opinion, en fait.
N'en parlons pas. Parlons plutôt de ce nouveau roman, La fille et le rouge. Un homme et une femme qui se rencontrent sur une île. Au début, c'est un colloque, hein, universitaire. C'est ça, c'est une rencontre. Ils ne se connaissent pas, mais il a pris la chambre, sa chambre porte-bonheur.
Oui, déjà, il a commencé. Ouais. Ça commence très mal.
Ça commence très mal. Mais elle tombe assez rapidement amoureuse de lui. Il a le coup de foudre. Il n'a même pas prononcé un mot qu'elle aime. Ça ne suit qu'une manche enfilée, l'autre comme ça qui tombe en arrière. Et puis elle commence à le décrire. Vous dites même que lorsqu'elle entend son nom de famille, elle veut déjà le porter.
Ouais.
C'est-à-dire que ça va très très loin.
C'est flippant ça. Moi, ça m'a fait très très peur.
Ça existe ça, des coups de foudre aussi rapides.
J'imagine que ça a pu aller là.
J'avais envie de ça, oui.
Vous avez déjà vécu ça, vous? Vous êtes déjà tombée amoureuse aussi rapidement, sans même entendre la voix de l'homme dont vous tombez amoureuse?
Je m'en souviens plus. Il faut que j'aille chercher dans ma malle.
Mais ça peut vous arriver. Ça pourrait vous arriver.
Il y a un cadenas. Hein.
Non, je veux dire, ça pourrait vous arriver.
Oui, oui, oui. Oui, bah oui. Bah, l'imaginaire, c'est la liberté de l'imaginaire. Et puis, on ne sait pas de quoi on est capable. On ne sait même pas de quoi on est capable de penser.
Oui, mais à un moment, il parle, quand même. Et là, on se rend compte que c'est l'imaginaire, c'est l'imaginaire.
C'est bien, mais c'est assez
que... Mais on peut... L'imaginaire peut aller vite. L'imaginaire, on peut imaginer épouser un homme, porter le nom d'un homme en un quart de seconde.
Ouais. Oui, alors là, elle
c'est pour ça que Nagui est prudent, il n'a pas de nom de famille.
Elle le fait beaucoup. Elle imagine même des scènes, des aventures sexuelles avec des partenaires comme une espèce de fulgurance.
Oui,
c'est-à-dire qu'elle croise un regard, elle croise un mouvement de la main, et puis d'un coup, elle imagine toute une scène, un fantasme, voilà, toute une vie. Le conditionnel est rapidement employé, et hop, on revient à la réalité. Donc c'est la manière dont elle vit, et alors la manière dont elle vit aussi passe beaucoup par les odeurs. Alors je ne sais pas si le parfum de Suskind fait partie de vos livres références, mais il y a quelques odeurs en tout cas marquantes dans votre roman.
Oui, je pense que j'ai un odorat qui était très développé par cette maison de mes grands-parents. J'ai un souvenir de toutes les odeurs de tout, toutes les pièces, tous les coins de jardin et tout. Donc je pense que ça, ouais, j'imagine que c'est ma nature aussi, je suis olfactive.
L'odeur métallique.
Ah oui, l'odeur du métal. Ouais. La peau métallique, oui.
Ouais, c'est étonnant ça. Mais c'est ce qui est beau aussi dans ce roman, c'est que tout d'un coup, les odeurs, parce qu'elles ne sont pas quelconques, voilà, nous apparaissent. Et vous faites un parallèle très vite avec des barreaux, qu'elle avait
grillages,
les grillages qu'elle avait respirés enfant. Et on a tous.
En collant sa bouche au grillage.
On a tous, je pense, cette sensation-là.
Ce souvenir vient, du grillage.
Du métal.
Ouais, ouais, ouais. Ah, ça me fait plaisir.
Mais il y a des odeurs qui ne sont pas toutes agréables. En tout cas, elles ne sont pas toutes liées soit à un fantasme, soit à un acte d'amour. Il y a aussi des odeurs de rats, du riz.
Ça vient du mot, toujours de ce moulin de mes grands-parents.
Ah bon,
il y avait des petites souris. Oui,
qui faisaient pipi partout et qui laissaient. Et puis avec des rats qui dormaient sur le ventre.
Ce que j'aime dans ce roman, enfin ce que j'aime, leur enfance. En fait, ils se rencontrent par. D'abord, il y a leur peau qui se rencontre, mais il y a aussi leur rire. Et ils rient ensemble. D'absurdité et rire ensemble de l'absurde du monde. Et je pense qu'ils ont un rire. C'est leur enfant qui se rencontre. Et j'aime leur immaturité aussi. Ce sont deux êtres totalement immatures. Oui, c'est en ça qu'ils s'aiment et c'est en ça qu'ils vont se...
Et pourtant, ce coup de foudre va rester sans suite pendant 5 ans, ma mémoire est bonne, avant
oui,
que...
Oui, j'aime bien le trou dans le temps.
Ils sont censés s'écrire, il lui donne son adresse, et elle n'en fera rien.
Et puis rien, presque c'est le
hasard.
Elle l'oublie. Voilà, c'est ça.
Elle l'oublie.
C'est le hasard qui lui fait se souvenir,
Ouais. Il se retrouve.
Et il se retrouve, enfin lui aussi, quoi. Il la cherche un peu.
Ah oui, bien sûr.
Bah, il tombe un peu par hasard sur son annonce, si j'ai bien compris. C'est dans une sorte de fascicule d'universitaire
où c'est
il
ça.
Voit l'annonce d'un colloque.
Il retrouve son nom.
Et c'est ainsi qu'il va provoquer les retrouvailles.
Oui.
Avec une barre de chocolat.
Avec
fondue.
Une barre de chocolat, comme
fondue.
Un enfant.
Ouais, fondue, s'il vous plaît.
Oui.
Fondue. Mmh. La fille et le rouge, c'est très sexuel aussi, c'est très sensuel.
Oui,
c'est charnel,
mais j'ai l'impression que c'est un peu ce qui m'intéresse dans l'écriture, parce que les autres livres l'étaient aussi. J'aime bien que le corps vive, qu'on sente des choses, j'aime faire partager à l'autre, même dans le malaise, ce qui se passe dans un corps.
Et ça se lit aussi comme un thriller, quand on se demande comment tout ça va finir, on est inquiet.
C'est une sorte de conte.
Ouais. Ouais,
c'est un peu la maison de la sorcière dans Hansel et Gretel.
Ouais. On a un peu peur pour elle.
On a peur quand elle pousse la porte, quoi.
Ouais, c'est ça.
Et c'est un conte.
On se demande si ça va pas très mal tourner à certains moments.
Exactement.
Il y a un suspense tout au long du récit.
Ah. Bah, on peut pas dire que ça finisse bien non plus.
Hein, je ne dis rien.
Non, mais justement quand vous parlez d'un conte,
ça se finit pas mal non plus.
Ouais. Ah bon?
Non.
On parle de la même chose.
Oui.
Ouais. J'ai la sensation qu'il y a quelques éléments de votre vie aussi qu'on peut retrouver quand vous parlez d'un combattant du feu et de votre expérience aux États-Unis.
Oui, certainement. Oui, oui, bien sûr. Mais j'ai jamais caché que je pars de moi. Alors, je me suis souvenue de quelque chose il y a deux jours. J'ai dit, en fait, voilà. Ce livre, c'est trois expériences de lectrice aussi. Il y a la fille. Et puis trois romans. Un que j'ai lu quand j'avais 10 ans, qui s'appelle Le Orla, de Maupassant.
Ouais.
Deux, c'est Madame Bovary, Flaubert. Et trois, c'est La douleur de Duras. Mmh. Et j'ai l'impression que j'ai fait, que c'est des romans qui sont rentrés dans ce roman que j'ai écrit.
Mmh.
Madame Bovary, parce que c'est une femme qui est obnubilée par ses rêves et ses images. Elle ne changera pas l'once de ses images, ce qui est terrible.
Mais elle est bernée par ses images aussi.
Elle aussi.
Oui. Elle aussi, oui.
La fille est totalement bernée par ses images. Le Orla, parce que pour moi, cet homme est le Orla de Maupassant.
Oui.
Et la douleur de Duras à cause de cette fascination que j'ai eu, ou peut-être qu'elle a aussi, de l'attente. Qu'est-ce que c'est que physiquement attendre? Et c'est ce qu'elle fait. La fille attend le rouge pendant tout le roman. Donc, voilà. Et c'est moi, et c'est ma malle à grenier.
Oui, mais c'est vous aussi, parce que vous avez connu un combattant du feu aux États-Unis. Vous avez, ça fait partie de votre vie intime.
Oui, c'est un personnage de roman qui est assez récurrent dans ce que j'écris. C'est-à-dire que le premier roman que j'ai écrit, c'était en 2000, et ça s'appelle Si petite devant ta face.
Vous avez écrit 5
romans.
Oui.
Et le couple était déjà La fille et le rouge. Si vous voulez retrouver le couple de La fille et le rouge, vous pouvez repartir sur le premier roman. Ils sont déjà là. Ils sont déjà là, et l'homme, le rouge, revient assez souvent. Il est juste pas là dans Trajet d'une amoureuse et conduite. Je lui ai donné une trêve. Mais sinon, il est là.
Dans La fortune de l'homme. Et...
Oui, il est là tout le temps.
Et le rouge, c'est le rouge du feu, c'est le rouge du combattant.
Du communiste.
C'est le rouge du communiste, c'est le rouge du sang, c'est le rouge de la mort. On va continuer d'en parler.
Avec plaisir.
Que l'on a, vous l'avez compris, dévoré.
Ouais.
La fille et le
merci,
rouge
ouais,
chez Grasset. Et pourtant, François, des révélations à nous.
Salut,
bonjour, François.
Salut, les amis.
François.
Salut Nagui, j'ai réussi à venir sur mon petit vélo. Et coucou Anne, j'ai lu La fille et le rouge avec un intérêt d'autant plus soutenu que presque dès le début, quand elle rencontre il, c'est comme ça que sont nommés les deux protagonistes principaux, on l'a déjà dit, un paragraphe m'a comme électrisé. En effet, quant à la page 24, j'ai lu et j'ai senti, je cite et j'ouvre mes guillemets, elle avait tout de suite reconnu son odeur métallique. Sa veste militaire sentait le froid et la neige. Sa bouche avait un goût de chewing-gum à la cannelle. Un éclair doux et douloureux à la fois. Ça m'a rappelé une histoire d'amour tout aussi brûlante, puisque je suis tombé raide dingue d'un sapeur-pompier, combattant du feu, qui était venu chez moi pour me vendre un calendrier, tout en mâchant sans arrêt du chewing-gum goût fromage de brebis. Mais je ne suis pas là pour raconter ma life. Je vous aime beaucoup, Nagui, mais ma vie privée ne vous regarde pas. Changeons de sujet.
C'est pas dans le roman, ça.
Non. Comme je confie à Daniel Morin combien j'ai été pris, captivé, absorbé par le roman. Dan Brochet, il m'a dit, je le cite, « Je ne lis jamais les livres de nos invités. » Mais là, je vais faire une exception. Pour un mec qui, comme moi, qui aime le pinard plus que tout, La fille et le rouge, ça c'est un titre qui donne envie. J'aurais voulu faire comprendre à Daniel que dans votre roman, chère Anne, certes l'alcool est un des penchants de Hill dont elle s'éprend, mais que l'essentiel dans ce récit réside dans le paradoxe d'une passion devenue servitude volontaire. Une aliénation qui jure pourtant avec un désir lucide d'émancipation qui va jusqu'à la haine. Et en vous lisant, chère Anne, j'ai compris qu'Emmanuel Kant avait bien raison de définir la passion comme une maladie de l'âme. Waouh! Oh, là, jamais j'ai été aussi bon. D'ailleurs, Leïla me disait encore tout à l'heure, oh, François, vos analyses philosophico-littéraires d'une subtilité inouïe, c'est pas le genre de truc qu'on risque d'entendre chez Trapenard, dans ses babillages superficiels. Et Nagui d'ajouter, allez chez Trapenard, quel traquenard! Voilà, chère Anne Brochet. Ironie, mauvais esprit, très mauvais jeu de mots, c'est ça aussi la bande originale. Ouais. Bonne émission quand même.
Nagui sur France Inter.
Nouveau roman, donc La fille et le rouge. Comment naissent vos romans? Est-ce que vous avez pris l'image tout à l'heure de la malle que vous alliez ouvrir? Mais au-delà de ça, le geste de l'écriture passe par un ordinateur, passe par un cahier, passe par des notes?
Un ordinateur, oui.
Ah, vous dites ça comme si c'était un péché.
Non, parce que je pensais à d'autres choses. Il y a aussi genre des petites notes de temps en temps. Moi, je me souviens plus. Par exemple, celui-là, j'ai aucun souvenir de quand.
De l'avoir écrit même, j'ai l'impression. Oui. Aucun souvenir.
Non, je me vois pas l'écrire.
Mais parce que vous le portez depuis longtemps en vous?
Oui, je pense que j'ai commencé à l'écrire en même temps que le premier roman.
En 2001.
Oui, oui. Après, je l'ai arrêté. Après, j'ai mis des gens. Après, j'ai enlevé les gens, comme je vous disais tout à l'heure, je parais radoter. Et après, je l'ai complètement oublié. Et après, il est ressorti...
Quelle occasion?
Il est ressorti à l'occasion de... il y a quelques mois.
Oui, mais très, très autonome, ce livre.
C'est... Oui.
Nous, on est ravis de vous accueillir sur RTL, en tout cas.
Non, mais j'ai l'impression que je fais la coquette et tout. C'est pas vrai. C'est que j'écris plusieurs choses. Je les travaille beaucoup, mais
Mais ça veut dire que le livre
je suis
ressort.
Très forte pour oublier des choses.
Est-ce que ça veut dire que le livre sort, il devient comme une évidence? C'est-à-dire vous revoyez des notes que vous avez prises, les premières feuilles peut-être, et il s'impose comme une évidence?
Ouais, c'est le temps qu'il l'a roulé comme un bois flotté, et hop, il arrive, et c'est le moment. Il est prêt à être partagé.
Il faut le lâcher, ouais.
Mais il a du mal à sortir de la malle, puisqu'il y avait des noms, il n'y a plus de noms, donc vous l'avez remis dedans, vous le ressortez.
Oui, lui, il a vécu beaucoup de choses, oui, mais il a vécu beaucoup de choses.
Il a vécu beaucoup de choses, on l'a sorti de la malle aussi.
C'est
Alexis Le Rossignol.
C'est vous. On ne dirait pas que vous avez vécu beaucoup de choses.
Ça fait plaisir. Ça fait plaisir.
Non, mais regardez mieux.
Je retourne le compliment. Ça va bien, vous allez bien? Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu.
Tu sais parler aux femmes, toi.
Toi, tu marques des points très vite.
Mais qu'est-ce que vous en savez?
En plus, là, on va parler.
En plus, il se passe quelque chose.
C'est une chronique de circonstances par rapport à ça. Parce que la semaine dernière, j'ai regardé une émission qui s'appelle 10 ans de moins, présentée par Christina Cordula. Vous connaissez Christina Cordula?
Oui.
Celle qui fait Magnifique, toutes ces fans de phrases, et qui dit les filles, vous êtes des bombasses. Vous voyez que
ouais,
c'est...
Ouais, ouais.
Oui, ça y est, on a vu.
Ouais. Oui, bon, bah, ça va, c'est pas Simone Veil non plus, on a le droit de pas la connaître. j'ai regardé ça. Moi, à la base, j'étais pas chaud, mais on est deux à la maison. Et dans la vie, il faut faire des concessions.
Hein. Oh non.
Moi, je peux manger du beurre avec le fromage, mais en échange, on regarde Christina quand vous voilà.
Ah, oui.
Au bout de 10 minutes à peine, je me suis dit, c'est tellement nul, il faut que j'en fasse une chronique. C'est ce que je me dis quand j'ai l'impression de perdre mon temps. Tu vois. Une fois, je suis resté enfermé pendant 3 heures. Dans les toilettes d'un train couchette. Parce que j'ai pas osé réveiller les gens qui dormaient. À l'époque, j'étais pas chroniqueur, mais je vous le raconterai un jour. Alors, le but de 10 ans de moins, c'est de sélectionner des candidates qui font plus que leur âge et de leur faire gagner 10 ans. Par exemple, une candidate qui a 40 ans, mais dont les gens pensent qu'elle en a 50, passe entre les mains de Christina Cordula, et à la fin, elle en fait 10 de moins, donc 40. Soit son âge réel. Donc l'émission pourrait s'appeler Femmes qui font leur âge. Mais, c'est vrai que c'est moins vendeur que 10 ans de moins. Enfin, je dis ça, moi, je suis pas producteur. Je suis qu'un petit chroniqueur.
Et suisse, apparemment.
Alors, vous allez me dire, mais comment elle fait, Christina, pour faire perdre 10 ans à des femmes qui font plus que leur âge?
C'est vrai.
J'ai remarqué que quand je dis, vous allez me dire, en fait, vous me l'auriez jamais
dit. C'est pour cela que je te le dis, là. Ouais, j'essaye.
Ouais. Bref. Alors, première étape, petite opération chirurgicale. Moi, j'étais là, vraiment, c'est obligatoire. Christina Cordula, elle voit maison à rafraîchir, elle refait la façade direct. Donc, injection de Botox, soi-disant pour redonner du peps au visage. Le Botox, c'est l'équivalent du citron d'un Top Chef, en fait. Voilà, ça redonne du peps. Personnellement, moi, quand j'ai vu le chirurgien esthétique, j'ai eu peur. Tu vois que lui, le Botox, il le touche à pas cher. Il lâchait pas sa seringue, il l'avait en permanence sur lui. Tu sens qu'entre deux patients, hop, il s'en met une petite dose dans les... Tu vois ? Alors, sur le principe, je suis pas contre ce genre d'émission, parce qu'il y a des milliers de gens qui s'aiment pas et qui ne prennent pas soin d'eux. Et c'est important de montrer qu'on peut s'aimer à nouveau. Mais est-ce que c'est vraiment obligatoire de commencer par la chirurgie esthétique ? Ensuite, ils sont passés à l'alimentation, la partie la plus intéressante de l'émission. Ils ont dévoilé l'alimentation habituelle des 3 femmes pendant une période d'une semaine. En gros, il y en a une qui mangeait que des trucs sucrés. Ouais. Des trucs chocolatés, des machins comme ça. L'autre, que des pâtes, et la dernière, que des kebabs et des frites. Mais sans salade. Salade, tomate, oignon, non. Sauce viande. C'est... Même l'alimentation de Gérard Depardieu à côté de ça, ça semblait raisonnable. Hein? Un cochon entier à midi, Gérard? C'est beaucoup, mais ça passe. Bon là, il y avait une nutritionniste pour analyser l'alimentation des candidates. Mais même une taupe bien entraînée, elle aurait dit, il y a un problème là. Oh oui. Alors, elles ont eu droit chacune à une monodiète de 3 jours. Une monodiète, vous connaissez ?
Ouais. Hein,
c'est quand tu manges un seul aliment sous différentes formes pendant 3 jours. Il y en a une qui a eu carotte. Bon, ben, carotte, ça passe, quoi. L'autre, pomme, ça va aussi. Mais la dernière, banane. Banane pendant 3 jours, c'est chaud. Ouais. Mange la peau, c'est plein de vitamines, et ta sœur. Hein. Ensuite, il y a eu le sport avec le coach personnel de Kim Kardashian. Là, ils ont fait venir des pointures. Ah, belle rêve quand même. Ouais. J'imagine la première rencontre avec sa cliente. Bonjour Kim. Alors j'imagine que c'est au niveau du fessier que vous voulez perdre. Ah non, don't touch my tralala. Ça, on n'y touche pas.
Tralala. Il dit ça. Oui, dit ça. Non mais c'est de l'argot américain, ça.
Exactement. Alors, le programme qu'a donné le prof de sport, c'était 20 minutes par jour, composé de 3 exercices de 4 minutes chacun. Moi, j'ai fait le calcul, 3 fois 4, ça fait 12. Hein, je me suis dit, il manque 8 minutes de sport quand même. Mais j'ai rien dit parce qu'il était costaud, et puis dans la télé en plus. Donc. Très important aussi pour rester jeune, toujours se protéger du soleil. Mm-hmm. Ouais, ça, c'est important. Si vous faites construire une maison, par exemple, il faut l'orienter plein nord. Peu de gens le savent, mais si vous voulez faire un bon investissement dans l'ancien, tapez orienté plein nord ou bâtiment sans fenêtre sur le bon coin. Il y a plein d'annonces qui ne trouvent pas preneur. C'est voilà, c'est un truc. Et pour finir, je vais finir quand même. Pour finir, les candidates ont fait un petit tour chez le dentiste et un relooking vestimentaire. Enfin, je crois parce que à cette époque, à ce moment-là, je dormais déjà parce que c'est important de bien dormir aussi. Voilà. Et une bonne chronique à ceux qui se sont pas endormis pendant la chronique.
Yeah, merci à Thierry Rossignol.
Oui, toujours.
Maggie, très bonne. La bande originale.
Très bonne idée de prendre des appartements plein nord.
Sans fenêtre.
Mais oui, parce que
c'est beaucoup moins cher.
Ça doit être moins cher.
Et on te retrouve, Alexis Rossignol, toujours au point virgule.
Jeudi, vendredi, samedi.
Jeudi, vendredi, samedi.
À 19h. Super.
C'est pour ça que tu fais pas ton âge, en fait. C'est parce que t'as pas de fenêtre et tu veux.
Ah, ben je suis plein d'armes.
Toi, tu vois pas le soleil. Tu devrais jouer un rôle de vampire au cinéma. On te l'a proposé ou pas?
Mais un jour, tu me donneras peut-être des rôles un peu intéressants, Nagui, non?
Mais vampire?
Toujours des trucs.
Tu rigoles,
mais qu'est-ce qu'il a avec un vampire?
Vous trouvez pas qu'il a une tête de vampire?
Mais c'est-à-dire qu'on m'a dit pervers sexuel?
Ah bon?
Non, ça me parlait pas de rôle. On disait la vérité. Mais moi, je parle de rôle.
Ouais, moi, je vais m'en aller parce que bon.
Mais quand on est acteur, on veut jouer tous les rôles.
Bien sûr, mais moi j'aimerais bien jouer quoi que ce soit.
Je croyais Anne Brochet, quand on était acteur, on voulait jouer surtout ce que l'on n'était pas soi-même, pas tous les rôles justement.
Mais il faut déjà avoir une opinion de soi-même.
Ah, qu'est-ce qu'on
dit déjà quoi?
Avoir une opinion de soi-même, oui. Dit-elle.
Ah oui, ça c'est...
Non mais si on est plutôt timide dans la vie ou réservé, on n'a pas forcément envie d'incarner peut-être un personnage qui est habité par ça.
Si, parce que le personnage qu'on va vous proposer ne sera jamais comme vous, de toute façon. Ouais. Ça sera une autre forme de timidité, ça sera toujours... ça sera jamais soi.
Oui, c'est toujours une composition.
Oui, donc vraiment, vous pouvez faire tout.
Bah, je vous remercie.
Oui,
à propos de timidité, vous sentez plus timide dans l'écriture ou dans le jeu? Quand vous êtes comédienne ou quand vous n'êtes plus du tout timide?
Je pense que j'ai jamais été timide dans le jeu et dans l'écriture, non.
Et dans la vie?
Oui.
Vous êtes timide?
Pas timide, non. Réservé.
C'est différent.
Oui. Vous ne croyez pas que c'est différent? Non, timide, c'est juste c'est une façon de gagner du temps.
C'est-à-dire?
C'est comme ça.
Vous évitez?
On sait pas,
oui, voilà,
on
c'est
a distance.
La timidité, d'accord. Je sais pas.
Alexis?
Oui.
Une autre question?
Non, mais je trouve ça intéressant, mine de rien. Parce que c'est vrai qu'on on développe des mécanismes qui sont d'anticipation par rapport à ce qu'on peut vivre au quotidien. Et les gens qui parlent beaucoup, qui sont affables, finalement, peuvent pas se prémunir de conversations qui les dérangent si un jour, ils en ont pas envie, quoi. Parce qu'on attend d'eux qu'ils soient
disponibles pour parler.
Disponibles. Et voilà. Alors que quand on a une certaine réserve, finalement, les gens s'adaptent aussi à ça.
Ouais. On est un peu tranquille.
On fout la paix.
Ouais, on est mystérieux quand on a rien à dire aussi.
C'est ce que j'ai.
Ça dépend de la lecture.
Il y a aussi certaines personnes qui se donnent une contenance, une intelligence en disant non. Je ne dis rien. Et là, il doit être super intelligent.
C'est la science du vide.
C'est une mascarade.
Ouais, c'est ça existe aussi. La musique, on sait que la musique a un rôle important dans votre vie. Anne Brochet, milieu des années 80, vous écoutiez.
Oh, how am I to know if it's really love that found its way here?
Cette musique vous renvoie quelles images? Parce que je vous vois rêveuse en écoutant Ava Gardner.
Oui, tout de suite. Je vois mon coffret de 33 tours de l'âge d'or d'Hollywood qu'on m'a offert à 12 ans. Et après, je me vois à l'école Florent avec Denis Podalydès. On a tous les deux, à mon avis, 18 ou 19 ans. Et on joue à l'école Florent pour rentrer à la classe libre, je crois, la scène du tramway nommé Désir.
Wow.
Avec Blanche et Stanley, la fameuse scène, et j'ai emmené mon coffret. Donc j'ai mon tourne-disque sur le plateau de l'école Florent avec ma chanson de Ava Gardner et je fais la scène avec Denis Podalydès.
Pour s'aider, pour se mettre en condition.
Non, ça faisait partie de ma scène.
On vous avait donné la scène avant. Et donc vous avez pensé à ça pour habiller le...
On vous a pas demandé de venir avec un électrophone et...
Non, je voulais venir avec ma musique. Voilà. C'était la musique que j'écoutais dans ma chambre d'ado et j'ai emmené ma musique d'ado à l'école Florent pour faire ma scène.
Ouais.
Ça, j'avais l'impression d'être à la maison.
Ouais. Et après cette classe libre des cours Florent, vous intégrez le conservatoire.
Oui.
Vous êtes une des élèves de Michel Bouquet, notamment, qui enseignait là-bas. Mmh. D'où remonte votre envie d'être comédienne?
De la télévision.
Ouais.
De la télévision, du samedi soir, du mardi soir, du mercredi après-midi, du samedi après-midi. On regardait la télévision, on regardait des séries, des films trop bizarres.
Je crois qu'il y a Voyage au bout de l'enfer aussi qui a été un film marquant.
Oui, ça je suis plus, j'ai déjà 15 ans et je crois que je veux déjà être actrice.
Ouais.
Mais j'ai des souvenirs de des Dames de la Côte qui me rendaient dingue et j'avais, je sais pas, 14 ans, 13 ans, oui. J'ai eu la chance bien plus tard de travailler avec Nina Companese.
En 91, 92... Non, pardon, je suis allé trop vite. En 87, vous écoutiez... On a pris ce titre. Ben c'est ce que vous avez demandé, Sparkle Horse. Donc on a pris ce titre-là,
ah,
mais
oui,
c'est peut-être pas le bon titre.
Je la connais pas.
Ah,
mais ça, c'est quelle époque ?
On est dans les fin 80.
Ah ben non, parce que Sparkle Horse, c'est plutôt vraiment il y a 7 ans, non ?
C'était pour Chabrol. Mais quand on vous a demandé quelle musique vous pensez pour Chabrol, vous nous avez donné Sparkle Horse.
Non, j'ai pas dû bien écrire.
Ok, on n'a pas dû bien comprendre non plus. Alors,
mais c'est pas grave, parce qu'en 87, c'est votre premier film. Pas n'importe lequel, dirigé par Claude Chabrol, Masque.
Et
est-ce qu'il vous vaut une nomination au César dans la catégorie meilleur espoir féminin?
Oui.
C'est, ça s'appelle commencer une carrière de façon assez idyllique.
Oui, 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 oui.
Au point que vous n'en revenez pas que Chabrol vous choisisse.
Oui, oui, je croyais qu'il se moquait de moi. Parce que je savais pas que c'était... Bah, avec Chabrol, j'ai pas fait d'essai, par exemple. Mmh. Il m'a rencontré et après, le lendemain, il me dit, je vous prends. Mmh. Et donc, j'étais très jeune et je me dis, mais je pense qu'il doit se moquer de moi. Et puis non, c'était simple pour lui. Il cherchait une jeune femme, une jeune fille comme moi.
Pour donner la réplique à Philippe Noiret.
Ouais, donc je coïncidais.
Comment était Philippe Noiret? J'imagine très impressionnant par ce qu'il dégageait,
très
son aura.
Chaleureux, mais très très chaleureux.
Il était bienveillant?
Oui, très très, bien plus que le personnage si vilain qu'il interprétait.
En 91-92, là on y arrive, vous écoutiez Massive Attack.
Et on vous retrouve dans Cyrano, qui vous vaut le prix Romy Schneider et une nomination au César aussi.
C'est plus qu'une nomination, elle a le César.
Oui, non, je l'ai pas.
Non, elle a pas.
Non, pardon. Non. Je croyais que vous l'aviez eu pour.
Il adore.
Non, c'est
pour tous les matins du monde.
Oui, oui, oui.
Donc, il y a eu un César, mais c'était pour être tous les matins du monde.
Tous les matins du monde, d'Alain Carnot. Et à ce moment-là, vous vivez, j'imagine, la notoriété de façon un peu particulière. Dans les interviews, vous dites que vous aviez besoin d'être à un petit distance de tout ça, de toute cette agitation. Parce que vous étiez considéré que voilà, tout d'un coup, on est la jeune première du cinéma français. On est monté sur un piédestal et on se dit, mon Dieu, on peut vaciller.
Oui, j'avais joué ma carte réserve et timidité. Comment ?
Énigmatique.
Oui, oui, oui.
Et l'expérience Cyrano, vous incarniez Roxane face à Gérard Depardieu, film de Rapneau. Le jeu, c'est aussi, c'est continuer à être comédien, c'est continuer à jouer dans tous les films, c'est continuer à apprendre, à développer, j'imagine, de nouvelles choses avec des partenaires comme Philippe Noiret ou Gérard Depardieu. Oui. Est-ce qu'on peut essayer de choper quelque chose de Gérard Depardieu?
Il ne peut être heureux que si il donne.
Mm-hmm.
Et c'est ça, l'acteur. Un acteur ne peut être épanoui que si son but premier est de donner à l'autre.
Et ça, vous l'avez compris très tôt, vous ?
Oui.
Ouais.
Bah, un peu par lui aussi, j'ai compris qu'on ne pouvait être heureux acteur qu'en donnant. Bah, après, on apprend un peu plus tard dans la vie qu'on ne peut être heureux en humain qu'en donnant. Mais ça, c'est une autre étape.
Ouais.
Nous reparlons de ce roman que vous signez, Anne Brochet, La fille et le rouge, aux éditions Grasset, avec François Lelore. Bonjour.
Bonjour.
François, vous êtes psychiatre, écrivain, vous avez écrit de nombreux ouvrages, les aventures de votre personnage Hector ont été publiées dans 35 pays. Félicitations déjà, on va commencer par ça. Hector et les lunettes roses pour le dernier, pour Aimer la vie, les lunettes roses, aux éditions Odile Jacob. On parle aujourd'hui de cette liaison de cette histoire d'amour entre cette fille et cet homme, avec, je l'ai dit tout à l'heure, des moments d'angoisse comme un thriller. On se demande si ça va bien tourner ou mal tourner, on se demande si cette relation est une relation d'amour saine ou si elle est carrément toxique. Comment définir d'ailleurs une relation d'amour toxique ?
Bah, une relation d'amour toxique, c'est une relation qui vous nuit, enfin qui au final vous rend malheureux, vous nuit. Et en général, ce sont les proches qui s'en aperçoivent.
Et pardon, qui abîme que l'un des deux ou qui abîme les deux ?
L'un des deux. En tout cas, que l'un des deux, disons, dont l'un des deux est un peu la victime, c'est souvent les proches qui s'en aperçoivent. Mais ce qui est bien décrit dans ce livre et dans aussi beaucoup de relations, c'est qu'il y a aussi des grands moments de bonheur. Donc, je veux dire, la relation toxique, c'est un peu quand l'autre se transforme en machine à sous, c'est-à-dire de temps en temps, ah, c'est le jackpot, on a un grand moment de bonheur. Donc ça donne envie de remettre dans le jeu, de rejouer. Et là, ça ne marche pas. Et donc on souffre. Et à nouveau, un autre moment de bonheur. Et donc ça maintient une forme d'addiction. Si la machine à sous ne gagnait plus jamais, ben on pourrait finir par se séparer. Et s'il gagnait toujours, elle vous donnait toujours, on finirait aussi peut-être par se lasser. Donc comment rendre amoureux quelqu'un fou ? Et là, c'est souvent, dans les relations toxiques, se transformer en machine à sous.
Mmh. D'où la difficulté de reconnaître qu'on est dans une relation toxique. Parce qu'il y a des moments où ça va bien.
Oui, exactement. Et qui donne évidemment l'espoir. Oui. Et alors, parfois, on dit, bah oui, c'est normal, c'est l'autre est un grand manipulateur, mais l'autre, parfois, fait ça, j'allais dire, en pure inconscience, quoi. C'est-à-dire, parce que lui-même a ses propres perturbations. Dans ce livre, on a l'impression que il a quand même ses propres perturbations, et donc, elle, évidemment, elle subit un peu les variations météo très violentes.
En amour, il y a toujours un des deux qui aime plus que l'autre, et un des deux qui souffre de ce déséquilibre?
Vous savez, je crois Balzac disant en amour, il y en a un qui souffre et l'autre qui s'ennuie. mais bon, ça
merci
c'est.
Merci d'être venu. Bonne journée, François.
Salut,
ouais.
C'est tout pour lui.
C'est tellement vrai, surtout.
Non, mais ça, c'est un peu vrai de certains amours passionnels. Tout le monde a pu passer par des périodes d'amour à la fois très heureuses et très malheureuses. Mais normalement, dans la vie, beaucoup de gens, on arrive quand même à trouver un amour partagé. Où chacun est heureux de voir l'autre heureux. Enfin,
non mais j'entends, mais c'est pas non plus un match, et c'est vrai qu'on peut pas quantifier la dose d'amour de l'un et de l'autre, mais il est naturel qu'il y ait un déséquilibre.
J'allais dire, oui, il est fréquent. Naturel, je ne sais pas. Moi, je crois quand même à l'amour heureux.
Mais
c'est vrai que surtout quand on est jeune, on passe par une phase d'apprentissage. Alors souvent, on aime ce qui vous manque, et donc à ce moment-là, l'amour vise à compenser quelque chose, et l'autre, lui, il n'est pas forcément là pour compenser, donc effectivement, ça se passe plus ou moins bien.
Il y a ceux qui, en amour, n'aiment que la quête ou la conquête, quitte à créer des propres moments de déséquilibre. Ce qu'on a le sentiment aussi dans ce livre, c'est que cet homme, par moments, sème le trou pour mieux reconquérir derrière ou à nouveau être aimé. Je t'aime tant, ça, c'est la phrase quand même qui shoot au début.
Voilà, il arrive à alterner le chaud et le froid, et ce qui le rend effectivement très attirant aussi. Et en plus, il a un peu les signes de la force physique.
Oui.
C'est le problème.
On sent qu'il est costaud, oui.
Voilà, c'est qu'il a aussi un charme masculin très fort.
Beauté spectaculaire.
Donc c'est une sorte de piège, mais dans lequel la victime peut se sentir heureuse un temps du moins.
Est-ce que la jalousie rend l'amour toxique ?
Je pense que la jalousie est une émotion normale, et que c'est normal d'éprouver de la jalousie. Là où ça devient toxique, c'est quand elle est excessive. Alors il y a des gens qui sont naturellement trop jaloux, du fait d'expériences anciennes, etc. Et puis aussi quand l'autre joue avec, c'est-à-dire qu'il y a aussi des gens qui, par exemple, pour réparer une relation, pour la rendre plus intense, vont provoquer la jalousie de l'autre. Alors ça, c'est un très très mauvais moyen, puisque souvent on rentre dans un cycle de représailles.
Mais c'est drôle. J'ai dit haute voix.
C'est une bonne vanne. Et alors vous disiez, est-ce que ça dépendait des histoires passées ? C'est-à-dire que, étant marqué par peut-être une tromperie, d'un coup on devient jaloux avec la nouvelle histoire, alors que le nouveau n'y est pour rien, quoi.
Oui, exactement. Oui, effectivement, il y a des gens qui ont été traumatisés par les infidélités, qui après restent un peu sur le qui vivent. Alors bon, si c'est pas trop profond, ils vont se réparer naturellement, mais parfois ils auront besoin d'aller voir un de mes collègues.
Quand on est toxique en amour, on l'est systématiquement avec tout le monde, ou il y a des partenaires qui se placent presque, j'ai envie de dire, immédiatement en état de victime ?
Et je pense que, si vous voulez, certains types de personnalités... Enfin, j'aime pas trop le mot pervers, mais ça existe quand même.
Très à la mode, le pervers narcissique.
Oui, la pervers narcissique, c'est beaucoup trop diagnostiqué.
Oui, on en voit partout.
dès qu'on est malheureux avec quelqu'un, on dit bah oui, c'était normal, c'est un pervers narcissique. En fait, 99% des cas, ça n'est pas le cas.
C'est des cons, c'est tout.
Mais évidemment, les
goujats.
Voilà. Ces gens n'attirent pas n'importe qui. C'est-à-dire, au fond, ils savent repérer aussi, même inconsciemment, les gens qui vont pouvoir un peu asservir. Et soi-même, en fonction de ses propres manques, effectivement, ou dans des périodes de vie où on était plus fragile, eh bien, on va chercher quelqu'un qui va tout vous donner. On espère qu'il va tout vous donner. Et à ce moment-là, on se met en situation de servitude, en fait.
Oui, c'est-à-dire, on accepte des choses qui sont inacceptables.
Voilà.
Mais est-ce que la limite n'est pas l'amour propre ?
Oui, heureusement, il y a un moment, parfois encouragé par les proches, etc., on se dit, ben non, là, ça suffit. Il y a un moment où on finit par désamorcer cette espèce d'élan qui vous maintient dans l'amour pendant si longtemps. Normal, mais il faut être en assez bonne santé, disons. Voilà, il y a des gens qui ont quand même beaucoup de mal à rompre, même des relations absolument infernales.
Ouais, santé psychologique aussi, confiance, oui, confiance en soi, c'est ça.
Parce que comme je suis psy, justement, c'est-à-dire bonne santé.
La santé, moi, vous, c'est dans la tête.
C'est plutôt le mental.
c'est pas le physique. Non, parce que là, le physique, il est aussi présent. Vous parlez de cette force-là. On a peur pour elle. On a peur que le côté toxique ou pervers, sans rajouter narcissique derrière, aille jusqu'à la violence. Physique.
Oui, mais qui n'apparaît pas. Il me semble même que dans le récit, à un moment, c'est elle qui frappe il, d'ailleurs. Ouais. Mais lui, il ne la frappe pas. Et ce personnage, moi, je le vois plus comme quelqu'un qui a des perturbations personnelles, enfin, liées à l'alcool et à d'autres choses, avec des désirs de carrière un peu fous, que quelqu'un qui jouit dans la perversion. Je ne le sens pas comme ça. Je le vois plus comme inconscient, peut-être des souffrances qu'il procure, un peu comme un fauve qui finalement vous donne un coup de patte gentil, puis le coup suivant, pof, il vous arrache la tête, mais il ne s'est pas forcément bien rendu compte de ce qu'il faisait. Mais...
Anne Bourget ?
Oui, je suis d'accord. Non, parce que je n'ai jamais imaginé, par exemple, l'idée de toxicité, c'est quelque chose qui n'est pas du tout, qui ne m'est pas venu à l'esprit en écrivant. J'ai écrit, me semble-t-il, avec, comme je disais, une sorte de cruauté à triturer les intestins des uns et des autres. Mais il y a de l'amour. Il y a aussi...
Oui, mais comme il y a cette tension, on parlait tout à l'heure de
thriller. Oui, ça, c'est la tension de jeunesse. C'est le défaut de jeunesse aussi. C'est la tension du désir, et il y a, comme dit si bien monsieur
Alexis
pardon. Ah
non, c'est François.
François, Alexis.
Non, si vous parlez, de notre psychiatre, c'est François, le malade, c'est Alexis. C'est...
Ah, Alexis, François. c'est un homme qui est en souffrance, oui. Et ça, c'est important de le dire. C'est pas du tout quelqu'un qui est manipulateur, qui veut faire souffrir. C'est quelqu'un qui, lui, avant tout, est dans une grande souffrance qu'elle n'a pas vue. Et quand elle pousse la porte, elle va découvrir ce monde de la souffrance.
On va vous libérer, François, parce que le temps vous appelle. Et merci mille fois d'être venu à ce micro. Je rappelle, plaisir. Hector et les lunettes roses pour aimer la vie aux éditions Odile Jacob. Et sur le sujet qui nous préoccupe aujourd'hui, vous avez publié « Comment gérer les personnalités difficiles
». Il y a du boulot ici. Hein.
Écrit avec Christophe André, tout ça aussi aux éditions Odile Jacob. Merci mille fois. On vous libère, François Lelorne. On peut en revenir, Anne Brochet, à votre roman. Vous dites « Je n'ai pas cherché à évoquer l'amour toxique, vous vous rendez bien compte que quand on est lecteur, on prend parti aussi pour vos personnages.
Bien sûr.
Il y a un moment où on...
Évidemment.
On a de l'empathie pour elle.
Bah oui.
Ouais. Bien sûr.
C'est elle qui prend en charge le récit en plus. Donc
Évidemment.
Quoi ?
Oui.
Non, vous avez fait...
Non, j'ai rien dit. J'ai
si,
dit...
Fait...
Ce que je veux dire, c'est que...
Si, vous avez fait... Si, j'entends.
Moi aussi.
Oui, on dit... Je ne sais pas si c'est elle qui prend en charge le récit à ce point.
Par moment, on a envie de la secouer quand même, de lui dire, écoute, sans toi, cette
relation. On a envie de la protéger.
Parce qu'on a de la protéger, mais par moment aussi,
on a peur.
Sauf toi, petite,
ça va pas recommencer.
Ouais, c'est ça. Sauf toi, tu es trop petite. Ouais.
Est-ce que vous écrivez vite? Ça vous a plu?
Oui.
Ah oui, d'accord.
Pourquoi on veut dire que... Parce que moi, je suis lente.
Une personne très posée, ouais.
Ouais. Je suis assez lente, mais quand j'écris, c'est plus vif que...
Mais dans l'écriture, on sent des fulgurances quand même. On sent que il y a des phrases qui viennent dans un jaillissement.
Mais j'ai l'impression, c'est-à-dire, dans la vie, je suis lente, Quand je m'écoute, ma voix, tout ça, qu'est-ce que je suis lente. Mais vas-y, secoue-toi. Quand je joue, je trouve que je suis lente, alors que j'ai l'impression que je joue très vite.
Vous êtes médium aussi.
Mais me semble-t-il, quand j'écris, il y a une sorte de vivacité qui est cohérente avec ce que j'ai l'impression de ressentir. Bah
ça,
moi,
à ce moment-là, ça s'appelle l'équilibre. Voilà.
Tanguy Pastureau. On est à la quatrième heure de l'émission, là, et tout va bien.
Tanguy, on est en 2022 surtout. Ça va, Tanguy?
Oui, ça va, et vous?
Ah, bah, très bien, Tanguy. Vous allez nous parler des doudounes, mais les doudounes sans manches.
Oui, c'est sûrement le vêtement le plus moche du monde, devant le t-shirt du super papa offert par tes gosses ou la tongue. Porter une doudoune sans manches, ça signifie qu'on n'est plus sur le marché du sexe, qu'on attend la mort en étant le plus fat possible. En Arabie Saoudite, porter une doudoune sans manches est passible de 14 000 coups de fouet.
Tu parles. On en reparle après les infos de midi.
Oui.
T'es pas joueur, Daniel, c'est pas original. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez avec Leïla Kadhoudi, Daniel Morin, Albert Algo, Alexis Rossignol, Tanguy Pastureau et notre invité Anne Brochet. Pour ce roman, La fille et le rouge, avec cette histoire d'amour, cette histoire d'envoûtement, cette histoire d'emprise, mais aussi une histoire dans laquelle on peut se reconnaître. Chacun peut se demander s'il n'a pas vécu une partie, peut-être pas toute l'histoire, mais en tout cas une partie de cette histoire.
Oui, j'aimerais bien quand même. J'aimerais bien que...
Que ça trouve écho.
Oui.
Que ce soit aussi une leçon, quelque part, qu'on se dise... Oula.
C'est gaffe.
Je pense aux hommes, en lisant, en disant, voilà comment une femme peut percevoir tel ou tel geste, comme la scène... trop vécu au quotidien par Daniel Morin, de l'homme qui, sur le canapé, regarde la télévision très très fort pendant que la femme dans la chambre essaye de s'endormir. Hein, Daniel?
Vraiment, c'est des raccourcis. C'est ça, les pervers narcissiques, c'est ça, la faute sur les autres. Il faudrait qu'on en discute.
On va t'offrir un casque, surtout.
Mais c'est vrai qu'en lisant ça, oui. Non, c'est le pire mépris, le pire des combats, c'est le mépris quotidien, celui qui vient s'immiscer comme ça dans des petits gestes.
Ouais. Qui vient surtout d'elle, parce qu'elle a un dépit de déception, c'est-à-dire qu'elle avait tant d'attentes. C'est une rêverie féminine, me semble-t-il. C'est pour ça que je parlais tout à l'heure de Madame Bovary. En tout cas, c'est une rêverie bovarienne où elle ne lâchera pas, c'est-à-dire qu'elle choisit un homme qui a tel aspect viril, masculin, et il faudra qu'il colle à l'image. Oui. Et s'il n'a pas collé à l'image, alors la haine va monter, ce qui est une chose très très forte en elle, dont elle ne pouvait pas deviner le sentiment.
Oui, on en a peu parlé, il y a beaucoup de haine en elle qui retombe et qui remonte à chaque fois.
Oui,
et on se demande comment ça va se terminer.
Jusqu'à désirer quelque chose de terrible, oui. Mais parce qu'il n'a pas collé à l'image.
Jusqu'à désirer sa mort. Enfin, elle s'imagine en train de le tuer. Qu'il meure, ça l'empêche pas, quelques pages après, de le demander en mariage.
Ça change rien au désir.
C'est
mais
ça.
Il y a une sorte de liberté, malgré elle, un désir de mort, mais en même temps, c'est Eros et Thanatos. L'un ne va pas sans l'autre.
C'est irrationnel aussi, dans une certaine mesure, en fait. C'est vrai que dès les premières lignes, quand Nagui disait tout à l'heure qu'elle voulait, sans le connaître, déjà porter son nom, ça annonce quand même que tout de suite, on est dans quelque chose de très fantasmé, qui va nécessairement être déceptif.
Absolument.
Anne Brochet signe La fille et le rouge, c'est aux éditions Grasset. Voici Tanguy Pastureau. Tanguy, votre vie n'a pas de sens, ça se voit.
Non, Nagui, mais aucune vie n'en a, à part celle d'Isaac Newton qui, en voyant une pomme tomber, a rédigé la loi de la gravitation universelle, ou celle de Jay-Z qui, en voyant le boule de Beyoncé bouger, a compris la loi de la gravitation universelle. Une vie, c'est quoi? On naît, on meurt, et entre les deux, il y a 70 ans, durant lesquels on ne fait pas ses besoins sur soi. On tente de rester digne, en somme, mais même ça, c'est fini. Je hais cette époque. 2019 est une chienne, ta mère le calendrier grégorien. Car hier, j'ai lu les pages décideurs du Figaro, des winners qui gagnent tellement de blé qu'ils ne comptent plus en euros mais en K-euros. Mmh. À titre de comparaison, Alexis Le Rossignol compte en micro-euros. Vous allez me dire, Pastureau, la page décideur, c'est ridicule parce que j'ai moins de leadership qu'une pizza à l'ananas. Quand en soirée je propose un dessiner c'est gagné, dans la minute tout le monde part sur un poker.
Mais j'ai eu du temps dernièrement. Hein, grâce aux grèves, j'ai moins causé depuis 10 jours que le mec qui aurait eu à nous tenir au courant de l'actu de Patricia Casse. Donc, j'ai lu le Figaro intégralement. Quand vous êtes à Inter, c'est un petit plaisir interdit. Ça revient à écouter une chanson de métal satanique intitulée 666 cordes notebook dans le cul de Jésus quand on bosse au Vatican. Lire le Figaro Décideur, c'est se frotter à des titres d'articles comme l'ancien managing partner de Salzman & Co. rejoint la holding Next Week en tant qu'executive chairman. Je suis largué. Hein, moi, le seul terme anglophone que je maîtrise dans le monde du travail, c'est week-end. Mais je me suis accroché. Alors, j'ai lu un article sur la charge mentale des cadres. Même eux sont fragiles maintenant. Hein, bientôt, ils vont réclamer des RTT, c'est j'en foutre. Et là, je tourne la page, ce qui est le principe de toute publication, à part mon grand-oncle qui a Alzheimer et qui lit la page culture de l'Express du 16 janvier 94 depuis le 16 janvier 94. Hein, c'est un type qui, quand il vous voit, vous dit « La vache, qu'est-ce qu'il sort comme 10, tonton David, un par semaine. Hein, c'est bien le premier noir que je vois bosser comme ça. Oh » Oui, grand-tonton n'aime pas les noirs, ah oui. Hein, à part Philippe Laville et Johnny Clegg, m'a-t-il dit. Bref, je tourne la page et là, horreur, enfer, gris des programmes de France 3, que lis-je ? Un article intitulé « La doudoune mania sans manche contamine l'entreprise ». Je ferme un instant les yeux, me dis que c'est un cauchemar, mais quand je les rouvre, je vois de nouveau le Figaro posé sur ma table basse Pierre-Import à 4 pieds, dont 2 pétés. Et là, je réalise épouvanté que la France, cette nation qui a vu naître Yves Saint-Laurent, Christian Dior, mais aussi Louis-Christophe Waikiki, plus connu sous ses initiales LC, est devenu un sombre pays de porteurs de doudounes sans manches. Si Kim Jong-un m'écoute sur les grandes ondes depuis la Corée du Nord, je lui dis donc ceci, Kimi, mon amour, défonce-nous la gueule à coups d'ogive. On se moque de ta coiffure, dite du renard mort que t'as sur la tête. Mais nous, on porte la doudoune sans manches, nous méritons de crever. La doudoune sans manches a été conçue par Belzébuth pour nous donner l'allure la moins sexe possible. Nous, Français qui forniquions tels des ânes, dégageons à cause de la doudoune sans manches le même charisme qu'un céleri rave. Résultat, notre taux de fécondité s'effondre. On va se faire bouffer par les Indiens qui sont déjà 1,4 milliard. Forcément, ils font l'amour, ils n'ont pas de doudoune sans manches. Alors que parfois, ils n'ont pas de bras à cause de la lèpre. Donc ce vêtement leur irait mieux qu'à nous.
Donc en fait, en France, vous dites que dans les entreprises, la doudoune sans manches cartonne.
Mais oui, on en vend plus que de gobelets, de bières tièdes au Festival des Vieilles Charrues. Et selon le Figaro, tout le monde en porte. Du DRH au comptable, tous en doudoune. Ça donne envie de devenir zadiste ou Alain Juppé et se retirer de ce monde qui part en vrille. La doudoune sans manches, ici, on connaît. Daniel Morin en a porté une pendant si longtemps qu'il a encore, toujours sur lui. Il avait l'air à l'époque d'un bûcheron québécois. Avec sa barbe, on avait l'impression qu'il allait couper des rondins. Certains politiques sortant de la matinale l'approchaient en lui disant « Mon gros loup, je viens de faire preuve d'une belle langue de bois. Vas-y, débite-la, moi. Ah. » Eh bien, Daniel a presque renoncé à la doudoune sans manches. Il la porte rarement désormais. Et ça l'a rendu coquet. Hein, cette année, il fait le calendrier de nu des anciennes de la SACEM avec Adamo et Smaïn. Donc, si Daniel est sur point de le faire, vous pouvez le faire. Avant, l'entreprise, c'était un truc à la Mad Men, avec des mecs en costard chic qui sentaient le bourbon. En 2019, dans ta boîte, tout le monde ressemble au bonhomme Michelin. Alors qu'avec le réchauffement, le pire du plus froid qu'on a, c'est 8 degrés au petit matin. Un petit slip et c'est bon. Donc, la réforme des retraites, on s'en fout. Emmanuel Macron doit maintenant dire s'il est pour ou contre la doudoune sans manches. Retour au vrai débat. Parce que je rappelle qu'Edouard Philippe, tout l'automne, en porte et une. Et peut-on faire confiance à quelqu'un qui s'habille aussi mal ? La réponse est non. La doudoune sans manche, ça passe si tu butes des grives le dimanche avec ton neveu défoncé à la gnôle de patates. Mais aux plus hautes fonctions de l'État, non. Imagine-t-on le général de Gaulle porter une doudoune sans manche ? Le monde de l'entreprise n'est qu'une vaste cuvette à étrons. Abolissons le CAC 40. Boycottons les marques Barbour et Chevignon qui ont lancé la doudoune sans manche afin de couler notre élégance. On ressemble tous à des Allemands à cause de ces connards. Ça valait bien le coup de gagner en 44. Hein ? La doudoune sans manche, c'est nul. On est moche avec. Ça pue la plume de poule. Quel est ton projet de vie, porteur de doudoune sans manche ? Avoir plus chaud au téton qu'au bras ? Le même que celui des stars du X ? Un peu de dignité. Ressaisis-toi. Daniel Morin est en train de sortir de l'enfer de la doudoune sans manche. Tu peux le faire aussi. Mais... courage !
Bravo !
Un cul, toutes ces conneries.
Du temps est tendu. Et on se retrouve le 19 janvier à Tinqueux. C'est près de Reims.
Oui.
Oui. Ça me fait très plaisir. Gueule, ça va pas, les garçons.
Oh là là, il y a beaucoup de haine.
Tinquechen,
ça
va du lab. Des questions concernant tout ce qui se passe dans notre culture en ce moment. Si je vous dis, alors écoutez bien. Et je fus plein alors de cette vérité que le meilleur trésor que Dieu garde au génie est de reconnaître à fond la terrestre beauté pour en faire jaillir le rythme et l'harmonie.
Qui a dit ça?
Ouais.
C'est un poème. C'est ça la question.
Jean Cocteau.
Non.
Cocteau.
Non.
Ça peut pas être quelqu'un d'encore vivant.
Vivant ou mort?
Non, mort.
Proust. André Breton.
Proust. Non. Non, c'était dans l'actu un petit peu.
André Gide.
Tu peux nous redire le début?
Hervé Villain.
Et je fus plein alors de cette vérité que le meilleur trésor que Dieu garde au génie est de connaître à fond la terrestre beauté pour en faire jaillir le rythme et l'harmonie.
Baudelaire.
Exactement.
Ah, bravo.
Ça roule.
Wow.
Il y a un truc.
Exactement, Baudelaire. Okay. En fait, c'est une strophe inédite des Fleurs du Mal que l'on retrouve dans un manuscrit qui va être mis en vente.
Quel flambeur
Non, qui a été mis en vente. Et ça me fait penser aux écrits que vous retrouvez vous aussi, c'est-à-dire des inédits. J'imagine qu'en cherchant chez vous dans un coffre Anne Brugier, on va retrouver des inédits.
Il y en a combien? Ouais, il doit y en avoir 4, 5.
Mais est-ce que, comme ça a été le cas récemment avec Proust, Sagan, pouvez-vous imaginer, le plus tard possible, après votre départ, que ces inédits soient publiés par des membres de votre famille?
Juste que je laisse une petite note à mes enfants pour leur dire, allez cliquer sur document.
Ah oui, c'est pas la même chose qu'un manuscrit de départ.
Ah oui, parce que c'est, tout ça est sur l'ordinateur.
Ouais.
Mais vous pouvez l'imprimer, le mettre dans votre malle.
Mais le jour où vous sentez mal, vous imprimez.
Non, mais mon ordinateur et ma malle.
Bah, la malle.
Moi, sur mon frigo, j'ai deux listes de courses. Si je crève, je vais pas avoir l'air con.
Concombre, carottes, endives.
Mais bon, une forme de poésie dans le quotidien.
Non, pas de bœuf. Philip Roth, décédé en mai 2018, était un auteur de génie, mais aussi un homme généreux.
Il a fait don de toute sa fortune, de tous ses droits à une association, à une fondation, non? Il a déshérité ses enfants.
Tu peux finir la question, Dani?
C'est un peu ça, la dernière preuve. Il a fait...
C'est don de son corps à la science.
Il a fait un don, oui.
Au Téléthon?
Non.
De tous les droits, tous les droits de ses livres, d'adaptation, tous les...
Mais à qui, en fait, c'est
toutes
ça?
Toutes les ventes futures de ses livres.
La question, non, il a fait dans une partie de son héritage. Voilà,
de sa fortune?
À qui? À quoi?
À l'État?
Non.
Non, à une association, à une fondation.
Une bibliothèque
pour la exactement.
Ça paraît logique.
La bibliothèque de sa ville natale.
Et ben voilà.
Exactement. Exactement. La plateforme Disney Plus a été lancée la semaine dernière et c'est un véritable succès, même si certains téléspectateurs ont protesté. Mais contre quoi les clients Disney protestent-ils sur cette plateforme?
Parce qu'il manquait,
il manquait quelque chose.
Il n'y a pas la VO de certains trucs.
Ils ont censuré peut-être des films, la trompe de Dumbo par exemple, qui est un peu phallique.
Exactement.
Ouais.
Ils ont censuré des
la trompe de Dumbo. Ouais.
Non.
Exactement.
Et les oreilles aussi.
Il y a eu des montages qui ont été effectués sur des œuvres comme Star Wars, Dumbo ou Toy Story.
Pas que Chewbacca est épilé intégralement.
Ils ont.
C'est un peu sexy, mais...
Non, mais il y a des personnages qui ont été retirés, jugés racistes du dessin animé Dumbo. Alors c'était pas la trompe. Il y a des scènes sexistes dans Toy Story qui ont aussi été retirées. Les utilisateurs de Disney Plus ont remarqué un changement de format aussi dans les Simpsons, impactant l'humour visuel de la série, en passant du 4 tiers au 16/9, c'est-à-dire le format ancienne et nouvelle télé. Bref, des choses qui sont essentielles à notre vie.
Disons qu'il y a des dessins animés qui datent des années 40, donc forcément on n'a plus le même...
Bien sûr.
Même grille de lecture.
À ce propos, vos personnages, pour en revenir à l'image, Anne Brochet, vos personnages dans La Fille et le Rouge n'ont donc pas de nom ou de prénom. On ne sait pas trop dans quelle ville ils vivent, si ce n'est que les deux dernières pages nous révèlent clairement dans quelle ville et dans quel pays on était depuis le début. Mais on ne sait pas non plus, à part pour la barbe rousse qu'il y a aussi à la fin du roman.
La barbe léopard, en fait.
Il y a quelques poils roux, quand même.
Oui.
D'accord.
Merci. Oui, elle est rousse léopard.
Oui, d'accord.
Mais je viens de m'en souvenir, là. J'avais oublié.
Mais elle, on ne sait pas si elle est brune, si elle est blonde, on ne sait pas quelle taille elle fait, on ne sait pas. On sait qu'elle maigrit au fur et à mesure qu'elle se sent mal, mais pourquoi ne pas décrire plus le personnage?
Je ne sais pas, parce que c'est de la peau. C'est la peau et l'intérieur et l'extérieur, le tactile, l'odeur. Et j'ai pas envie de commencer à mettre des couleurs de cheveux ou des couleurs. Lui a des yeux noirs.
Oui.
Des yeux noirs qui
scintillent,
qui font du bruit.
Ouais. Alors les formes, autant les formes du corps, globalement, on ne s'en rend pas bien compte. Par contre, de partie du corps, oui. C'est-à-dire les lèvres, les détails sont plus décrits que...
Oui, il y a des zooms.
Ouais.
Il y a des zooms. Ouais.
Non, mais ça donne envie. Et vous pensez que ça pourrait être un film, La Fille au Rouge?
Franchement, je n'y ai pas pensé. C'est-à-dire, écoutez, tout existe tellement, moi je l'ai tellement vécu en l'écrivant que le film, il est fait.
Dans votre tête, oui.
Ouais.
Dans votre tête, oui.
C'est une sorte de liberté. En fait, si je puis me permettre, la première fois que j'ai écrit un roman, j'avais écrit un scénario d'abord parce que je voulais être réalisatrice. Et puis, je me suis dit que finalement, écrire, c'était... je pouvais faire la régie, la production, j'avais pas besoin de passer par le CNC, j'avais pas besoin de demander à qui que ce soit, quoi que ce soit, aucune note d'intention, et que je choisissais mes acteurs, c'est moi qui jouais tous les rôles, je choisissais mes décors, c'était... Donc chaque roman, chaque chose que j'écris, je vois tout, l'ai vécu.
C'est comme une petite fille qui joue à la poupée, ce que vous racontez.
Oui. Ah, je joue avec mes... Ouais. J'ai un côté... je joue beaucoup, même dans les choses terribles, parce que je fais vivre à mes personnages des choses pas drôles.
Des horreurs, oui.
Ben, c'est comme quand on est enfant et qu'on coupe des bouts de choses, on découpe la poupée, on lui fait sortir du coton avec plein de mercurochrome... Et c'est, j'ai ce jeu-là dans l'écriture. Ouais.
Anne Brochet signe La fille et le rouge. Lui aussi découpe des poupées, mais elles sont malheureusement des êtres vivants. Voici Daniel Morin. Assassin.
Et aujourd'hui, vendredi 13, jour de malheur.
C'est vrai,
jour d'angoisse. Que va-t-il se passer? Christina Cordula va-t-elle rentrer en studio pour égorger Alexis le Rossignol? Tanguy Pastureau va-t-il bouffer ma doudoune sans manche? Est-ce que...
Stop! Arrêtez avec vos questions à la con.
Qu'est-ce qui vous arrive, Maréchal?
J'ai peur pour ma retraite.
Bon, en même temps, Maréchal, vu votre état physique, ça va pas durer très longtemps, cette histoire d'espérance de vie, j'ai la vôtre.
C'est pas drôle, espèce de con. J'ai des besoins et un budget hyper serré.
Vous touchez combien par mois?
4 millions d'anciens francs.
Oh, vous êtes au courant qu'on est passé au nouveau franc en 58, puis à l'euro en 2002?
Je m'en fous.
Bon, ça nous fait quand même en gros 6 000 euros, ce qui est pas mal quand même, Maréchal. Hein. Vous avez quoi comme dépenses qui peuvent monter jusqu'à 6 000 par mois?
Je paye 1 500 pour ma chambre à l'hospice des vieux glands.
Ok, ça nous laisse quand même 4 500 pour vous nourrir, c'est pas mal.
Oh, vous savez, je mange peu. Depuis la guerre en Indochine. Je vous ai dit que...
Ils ont raison, plusieurs fois. On en était à vos dépenses.
Ah, oui. Pour ce qui est de la bouffe, ravitaillement, je dirais que je dépense 1 200 par mois.
Ce qui nous laisse 3 000 pour vos dépenses annexes. Je vous assure, c'est beaucoup, Maréchal.
C'est le problème...
Ça coûte cher.
Non, attends, soyons sérieux 2 secondes. Le problème... c'est que je prends de la coke. Consomme beaucoup de coke. Je suis à 5 grammes par jour.
5 grammes, merde, je croyais que vous étiez juste au Poppers.
Ah oui, aussi, c'est Leila qui m'a fait découvrir le Poppers. C'est pas mal. Ah, le Poppers, ça coûte que dalle, mais la coke, ça c'est une autre histoire.
Mais putain, 5 grammes, ça nous fait 500, dans les 500 euros par jour.
Ah non, je paye pas autant. Je passe par le dealer de Nagui, je paye 60 euros le gramme, et quand même.
Ouais, ça nous fait 1 800 de coke par mois. Mais là, non, vous êtes toujours dans le budget.
Et pour l'opium, je fais comment?
Ah merde, si vous prenez de l'opium, on va pas s'en sortir.
Et puis, il y a les filles.
Oh merde.
Les filles que je fais venir à l'hospice. Oh et là, je suis ric-rac.
Bon, qu'est-ce que je peux pour vous, Maréchal?
Ben, j'ai entendu dire que ceux qui allaient en baver étaient ceux qui étaient nés après 1975.
Oui.
Et comme je suis resté très jeune intellectuellement et très frais physiquement, dans la bande originale, c'est quand même moi qui ai l'air le plus jeune. Du coup, j'ai peur qu'au ministère, on croie que je suis né après 1975 et que ma retraite en prenne un coup dans l'aile. Est-ce que vous pourriez me signer un papier comme quoi je suis plus vieux que Nagui?
Ah, je veux bien, mais ça va être dur à faire avaler. Hein. Vous avez l'air tellement plus jeune.
Oui, je sais, c'est mon drame. Je vais perdre tout mon fric à cause de ça.
On va se débrouiller, Maréchal, vous inquiétez pas.
Bon, pour ruser, je vais faire semblant de boiter. Ça me donnera un air vieux.
Excellente idée, vous inquiétez pas. Je m'occupe de tout, Maréchal. Allez, bon week-end à tous.
Merci.
Merci. Allez, bien, un goût d'aliment.
Avec Nagui.
Parlons du théâtre des Bouffes du Nord un tout petit peu, quand même.
Il est d'actualité.
Beaucoup parlé, oui, le roman aussi, qui est sorti là en octobre. Architecture, mise en scène, écrit par Pascal Rambert. Vous êtes sur scène avec Emmanuel Béard, Audrey Bonnet, Marie-Sophie Ferdan, Arthur Noziciel, Stanislas Nordet, Denis Podalides. Il y a Laurent Pointrenot, Jacques Weber, également Jeanne André, Lila Cousin, Césarée Genet-Bonnet, Rose Pointe-Renaud, France Rosa, du monde pour cette pièce que tu as vue à... en Avignon, c'est ça?
Oui, dans la cour d'honneur, cette année.
Ah
oui.
Vous ne saviez pas, vous n'y étiez pas.
Si.
Non, vous avez l'air surprise.
Non, c'est chouette. Ben non, parce que c'est, ça devait être beau à voir.
Ouais, c'était très beau. C'est toujours pas son. La
cour d'honneur,
c'est
un écran.
Non, mais moi, je suis dedans, je ne vois pas, je ne sais pas quel spectacle c'est.
D'accord. Oui, ah oui, je n'avais pas compris.
Forcément,
le soir.
Ça doit être beau à voir, oui, mais.
Moi, c'était le soir où le chat est venu sur scène.
Oui.
Voilà, il y a un chat qui vit non loin de la cour d'honneur et qui est un peu chez lui. Et on avait la sensation que ce chat faisait complètement partie du spectacle.
La mise en scène, très bien. Donc, il n'y a pas de chat au théâtre du Bouffe du Nord.
Pascal Rambert s'est servi de ce chat qui vient de temps en temps pendant les spectacles pour écrire une scène à Emmanuel Béart, à Emmanuel, donc elle s'appelle Emmanuel dans la pièce, qui voit un chat passer. Mais là, il n'y a pas de chat.
Architecture.
Et il y a un cheval aussi.
Architecture, c'est pour penser notre.
Il n'y a pas qu'un chat, il y avait aussi un cheval.
Non, mais je finirai plus tard, c'est pas
grave. Pardon, Nagui.
Non, mais je vous en prie. Nagui. Non, mais je voulais juste que vous nous disiez, parce qu'il y a beaucoup d'acteurs sur cette pièce.
Oui, il y a Pascal Rénéré qui n'a pas été cité.
Pardon.
Parce qu'il joue en alternance avec.
Il jouait le cheval.
Il joue en alternance avec Denis Podalydès.
D'accord, pardon.
Voilà. Bon, non, monsieur.
Et j'ai essayé pourtant de citer tout le monde. Comment.
C'est pour ça.
Vous pourriez. C'est pas facile à pitcher.
Si, c'est une saga familiale de 1900, je ris, c'est pas drôle du tout, de 1911 à l'Anschluss et qui descendent le Danube. Voilà, c'est des gens qui plutôt intellectuels, plutôt nantis et qui vont dégringoler jusqu'à l'Anschluss. Ouais.
Au théâtre des Bouffes du Nord.
Mais c'est une saga, effectivement.
C'est jusqu'au 22 décembre, c'est ça?
Oui, Nagui.
Il va falloir que l'on se quitte, Anne Brochet.
Je pense que l'émission commençait à prendre.
Il y avait un truc.
Leïla, qu'est-ce que tu retiens de La fille et le rouge?
C'est une écriture qui m'a beaucoup touchée. C'est la première fois que je vous lis, Anne Brochet. Je ne veux pas faire semblant d'avoir lu les précédents. Parce qu'il y a une véritable acuité. Et ce que j'ai aimé, c'est suivre les questionnements ou les idées qui traversaient l'esprit de cette femme en me demandant dans quelle mesure elle était très loin de moi et en même temps en me disant. Ça a pu me traverser aussi, peut-être dans une certaine mesure. Donc, c'est une très belle découverte.
Alexis Le Rossignol.
Je vais pas vous dire que je l'ai lu, parce que je l'ai pas lu, mais en tout cas, je vous ai trouvé.
Tu seras pas le premier.
Ouais, voilà. Bon. Non, j'ai pas grand chose à dire sur le sujet. Je
passe. Et sur
la rencontre
d'Anne. Ah bah, super, franchement, il y a eu un feeling entre nous.
Je vous ai encouragé à jouer beaucoup de rôles.
Ouais.
Toutes sortes de métiers.
Je suis,
alors que t'as pas vu jouer encore.
Ouais. Tanguy Passion.
Je tiens à dire que Madame Brochet porte un bas de survêtement orange,
ouais.
Qui est la doudoune sans manche du bas. Donc je consacrerai ma prochaine chronique.
Albert Algou, toi tu l'as lu le livre.
Oui, je l'ai lu, j'ai beaucoup aimé. Et S'enflammer pour un sapeur-pompier, ça peut être quand même très dangereux, un combattant du feu.
Daniel Morin.
Moi, une auteure qui fait la part belle aux odeurs à travers l'écriture, ça m'a beaucoup touché, j'aimerais que ça se fasse plus souvent, et c'est aussi pour ça, j'en profite Nagui, pour vous dire que c'est ce qui m'a rapproché de vous.
L'odeur
L'odeur, comme ça, votre rôle musqué.
C'est pour ça que les lettres
ont fait pencher
la balance. Ça, je me mets au milieu.
Merci beaucoup, Anne Brochet.
C'est moi qui vous remercie beaucoup.
Qu'aimeriez-vous que l'on dise après avoir lu votre livre?
Oh là là. Mais vous savez bien, au début, vous avez vu que je mettais 3 jours à répondre.
Mais revenez dans 3 jours.
Qu'est-ce qui vous traverse, là?
Non, je pense juste à une phrase. Je voudrais réunir Pascal Rambert et un peu mon écriture. Pascal Rambert, il dit qu'on n'écrit rien sans amour. Et c'est là-dessus que je voulais finir.
Il y a un peu plus de ponctuation dans votre livre que dans les textes de Pascal Rambert. Nous vous souhaitons une très bonne journée, surtout un bon week-end. On se retrouvera lundi avec Édouard Baer dans la bande originale. Tout de suite, encore. Les carnets de campagne de Philippe Bertrand. Bonne journée.